Sans plus tarder, je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais présentée ce soir par Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonsoir. Sécurisation de l'espace aérien congolais. Après l'idée du ministre de Transport Mwando Simba de la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, quelles mesures urgentes de la part du gouvernement? C'est la suite de l'émission de lundi dernier en rapport avec le crash de l'avion Dewabora à Goma. La sécurisation de transport aérien fait partie des prérogatives du ministre de Transport. Ce dernier doit imaginer des stratégies pouvant lui permettre de convaincre le gouvernement pour cette fin. C'est un message signé Kakuli Sefou Gustave qui nous écrit depuis Kalemie dans le Katanga. Robert Baomé de Bukavu dans le Sud qui vous pense qu'il ne suffit pas de prendre des mesures, aussi faut-il bien les appliquer. Comment sera assuré le suivi de ces mesures urgentes sur la sécurité aérienne en RDC? Nous devrions avoir le ministre de Transport Charles Mwando Simba. Le ministre a déclaré qu'il n'aime pas participer à Dialogue entre Congolais. Pour clore ce débat, nous avons invité une fois encore Oupio Kakura. Il est député national PPRD, ex-directeur à la régie des voies aériennes, RVA. Le commandant Idelfonse Ilunga, ancien pilote de ex-Air Zaïre, aujourd'hui ligne aérienne congolaise. Et Camille Bouchiri, il est directeur expert financier aux lignes aériennes congolaises.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Sécurisation de l'espace aérien congolais, quelles mesures urgentes de la part du gouvernement? Je vous rappelle que le ministre de Transport, Charles Mwando Simba, en a parlé samedi dernier devant la presse. À propos de la sécurisation du secteur aérien, je vous rappelle que le ministre de Transport a évoqué l'idée de la création d'une nouvelle compagnie nationale d'aviation. Le ministre a aussi parlé des pistes et des aéroports. Notre confrère Guy-Angé Nyampala nous fait le point.
Au cours de cette conférence de presse, outre la volonté du gouvernement de mettre en place une compagnie aérienne nationale, le ministre des Transports a parlé de l'état défectueux de certaines pistes des aéroports du pays, pistes qui devront être réhabilitées après des études. Il a cité notamment l'aéroport de Goma, de Kinshasa et de Lubumbashi. Selon Mwando Simba, la situation des pistes de ces aéroports est une priorité pour le gouvernement. À propos de la réforme du secteur aérien, le ministre des Transports du gouvernement central a évoqué un programme d'harmonisation avec le bailleur de fonds, en l'occurrence le FMI et la Banque mondiale, pour relancer ce secteur. Charles Mwando Simba se dit prêt à encourager uniquement des partenaires capables d'aider à relancer les compagnies aériennes congolaises, dont les LAC. Il s'oppose par contre aux accords bidons. Enfin, le ministre de Transport Mwando Simba a affirmé qu'il n'y a pas que le transport aérien qui est malade, le secteur de transport en général va mal.
Voilà, on a déjà parlé suffisamment hier de la relance de lignes aériennes congolaises. Je rappelle juste les arguments des uns et des autres, notamment je crois que c'est Yupio qui a dit qu'il faut que cela devrait prendre du temps, hein. Il faut que le personnel des lignes aériennes congolaises puisse aussi consentir des sacrifices. Il faut changer aussi de mentalité. Au niveau de l'AC, on a la réplique de Camille Bouchiri, c'était que le changement de mentalité devait aussi être observé du côté des autorités politiques qui doivent notamment éviter la politisation et même la mauvaise gestion des lignes aériennes congolaises. Mais là, le ministre de Transport a donc parlé, selon nous avons suivi notre confrère, il a aussi parlé de l'état de pistes et aéroports congolais. Et Oupio, vous êtes un ex-directeur de la régie des voies aériennes, donc mieux placé pour peut-être parler de façon succincte de l'état des lieux des aéroports congolais.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Effectivement, je crois que la situation de nos pistes, mais également de nos aérogares, pour la plupart, laisse à désirer. Lorsqu'on a voyagé à travers le monde, il est malheureux de se retrouver à un aéroport comme celui d'Ndjili, qui est un aéroport international, et donc qui est dans notre capitale. Et comme nous le savons, dans tous les pays du monde, un aéroport, en fait, c'est le point de mire, c'est l'image de marque d'un pays. Et donc, il est tout à fait notable que, à part quelques aéroports qui ont été construits vers les années 70, je parle de Kisangani, Goma et Isiro, donc toutes les autres infrastructures de base sont anciennes, elles sont vétustes, elles sont dépassées, elles ne sont plus adaptées aux normes de sûreté et de sécurité.
À moins que j'exagère, en Djili, on ne peut même pas le comparer à des aéroports des pays voisins, Kampala, Entebbe, par exemple.
Vous avez raison, et quand on est sur d'autres aéroports comme Kampala, effectivement, vous trouvez qu'il y a des travaux qui se font régulièrement et sont des chantiers perpétuels. Et donc, de ce point de vue-là, le ministre a raison. Et je crois que le gouvernement qui a dans son programme la rénovation des aéroports, ce qui figure d'ailleurs du reste dans les chantiers du chef de l'État, et donc il est urgent, me semble-t-il, de pouvoir consacrer des efforts pour qu'on améliore, n'est-ce pas, l'état et la fiabilité de nos pistes et aérogares.
Voilà. Urgence donc de réhabiliter l'état des pistes et même aérogares. Commandant Ildefonso Ilunga, vous avez eu même à atterrir ou décoller des aéroports congolais. Dans quel état vous les trouvez aujourd'hui quand vous les voyez?
Bon, ces aéroports et ces pistes, je dois dire que je connais plusieurs étapes là-dedans. D'abord, quand je suis arrivé ici, en 66, nous avons trouvé des pistes dans un état plus ou moins acceptable.
Ici ou à Kinshasa ou au pays?
Dans toute la République. Okay. Parce qu'en ce moment-là, je volais pratiquement dans toute la République. Que ce soit des petites pistes ou bien des pistes, des grandes pistes. Quoi. La plupart des pistes, d'ailleurs, étaient presque en terre, d'autres en herbe. Mais, à un moment donné, à force tellement d'en parler, on a fini par nous donner des pistes acceptables. Donc, ce qui était goudronné, asphalté et tout, du temps de monsieur, je crois, du ministre Ketebi, ils ont fait un gros effort. On a vu même d'ailleurs des aéroports, des pistes qui étaient vraiment entretenues comme des aéroports modernes. On s'est dit, bon, peut-être ça va continuer comme ça. Malheureusement, depuis un certain temps, ces pistes commençaient à se dégrader. Je ne volais presque plus, mais de temps en temps, je suivais, soit j'allais bien en mission et je regardais un peu ces pistes et je les voyais. Là, c'est délabré de jour en jour. Mais le problème, tu vois, se situe à quel niveau? C'est-à-dire, même quand on fait des pistes, on construit des aérogares, il y a une grande chose là-dedans, c'est l'entretien qui manque dans nos pays.
Est-ce que nos aéroports sont entretenus aujourd'hui?
Justement, pour entretenir un aéroport, d'abord, ils ne sont pas entretenus, ni les pistes ni les aéroports. On le voit dans quel état ils sont arrivés, et ça, c'est vraiment dommage. C'est parce que dans tous les aéroports, il y a quand même ce qu'on appelle des visites régulières. Des aéroports bien sérieux, ils mettent des inspecteurs. Et ceux-là visitent, ils font des visites pratiquement régulières, pour ne pas dire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et ils doivent faire des rapports acquis des droits, de façon à ce qu'on puisse intervenir en temps utile. Mais si on laisse, admettons, des mois, des semestres, voire même des années, où vraiment on fait presque... Peut-être ils le font, je ne sais pas, mais... Nous, quand nous voyons ça, nous disons, en tout cas, il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'inspection. Sinon, cette piste, par exemple, ne serait pas dans l'état où il est.
Mais parlons justement de la piste de Goma, parce que c'est l'actualité, en fait, autour de laquelle nous sommes dans ce genre d'émission. Le crash de Goma, vous l'avez déjà dit, que normalement, le type d'avion, comme celui qui a fait le crash, ne pouvait plus atterrir là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, aujourd'hui, d'urgence, au niveau de la piste de Goma?
Bon, la piste de Goma aujourd'hui, il y a d'abord, il faut enlever les laves. Il faut pratiquement réhabiliter cette piste pour la ramener à 3000-3500 mètres, si on veut. Parce que pourquoi? Les gens veulent absolument y amener des avions gros porteurs. Dans l'accident qui s'est passé, il y avait deux phases. Parce que la plupart des gens expliquent ce qu'ils aiment expliquer, mais je dois vous dire qu'il y a deux phases. Lorsque un avion gros porteur comme celui-là, il y a d'abord la première phase qui est la phase où l'avion se prépare à décoller. Jusqu'à une certaine étape qu'on appelle à la vitesse de décision. Cette étape-là, l'avion est censé être bon. La piste, elle est tout à fait bonne. Si même, admettons, il vous arrive un problème, vous pouvez lâcher le décollage, vous pouvez abandonner le décollage. Mais comme la piste est soit longue, soit en bon état, vous pouvez toujours abandonner votre roulage, les choses, votre décollage, et permettre à la masse de continuer encore à rouler.
Mais la masse, c'est dans l'avion.
Donc, c'est le poids de l'avion. Hein.
Non.
La masse, c'est
le poids de l'avion.
Alors, comme l'avion est lourd, il ne va pas s'arrêter brutalement. Même une voiture qui est en grande vitesse, si vous lui demandez de vous stopper brutalement, vous risquez de faire une tête à queue. Hein. Donc, il faut au moins laisser cette masse-là se poser progressivement.
Donc, on retient qu'il y a urgence d'enlever la lave.
Il faut enlever la lave de façon à permettre que la piste soit, admettons, d'abord bien propre, qu'elle puisse être allongée, qu'on revienne au standard normal, c'est-à-dire d'une piste longue d'autant comme on avait dans les 3200 mètres. Et en ce moment-là, on peut demander aux avions gros porteurs de venir se positionner sur cette piste et continuer leur vol normal. Mais s'ils ne font pas ça, ils n'enlèvent pas les laves. Il laisse la piste dans l'état où il est.
Donc le danger est encore là.
Le danger est là. Là, je recommande absolument, je recommande vraiment personnellement, j'insiste, que les avions gros porteurs ne poussent pas aller à Goma.
Allez à Goma. Camille Boucheri, un mot sur les aéroports. Vous, bien sûr, directeur expert financier aux lignes aériennes congolaises, mais peut-être un mot sur l'état de nos aéroports.
J'entends par rapport aux concurrents, par rapport à nos partenaires qui sont découragés. Qu'ils amènent des bons avions, qu'ils s'amortissent vite par le fait qu'ils atterrissent chez nous. Alors nous avons besoin d'eux. Mais pour collaborer étroitement avec eux, il faut que nous puissions niveler les tarifs, il faut que nos services soient comme les leurs, comme ça les clients peuvent aller chez eux ou chez nous et retrouver la même qualité de service.
Est-ce que vous voulez dire que c'est un manque à gagner pour le pays?
Oui, ça décourage. Au lieu de programmer 4 vols, on programme 3. Et si on programme 4 vols, les coûts d'entretien sont trop élevés parce qu'on a atterri à Kinshasa quelquefois, il y a quelques années. Il y a des compagnies qui ont délocalisé leur vol. Faut commencer par Brazzaville. Donc, tout bien, on a tiré là-bas. La qualité des pistes, et puis on n'est pas trop embêté. La piste, il y a encore la deuxième, et tant d'autres formalités qui découragent un peu les partenaires. Donc, sur cette vision-là purement commerciale, nous avons besoin des concurrents qui nous supplient quelquefois lorsque nous avons des problèmes. Comme pour le moment, on n'a pas d'avion. Mais si les pistes et notre modalité pour qu'ils puissent atterrir ici ne sont pas réunies, ils vont aller ailleurs, on va perdre, n'est-ce pas, ces possibilités d'affaire de bonnes relations avec les partenaires. Et aussi, même les passagers, ils sentent à l'atterrissage qu'il y a beaucoup plus d'inquiétude avec nos avions sur notre propre terrain qu'avec les avions étrangers ailleurs. Alors voilà, autant acheter des billets à Air Force et à Sabena, qui est dans une compagnie congolaise, qui va faire une escale à l'intérieur du pays avant d'habiter la Kinshasa pour aller à l'extérieur. Donc c'est un manque à gagner. Et ça nous déstresse sur le plan psychologique par rapport aux clients qui ont besoin de nous, qui sont nationalistes malheureusement, ils font des vols ailleurs.
Voilà. Pour parler justement de l'urgence de ce que présente l'état des aéroports en RDC ce mardi, d'après les confrères de notre rédaction de Radio Kapi Kalemi, nous sommes au nord Katanga, l'avion de EcoFlight s'est embourbé depuis 13 heures après un atterrissage réussi sur la piste de l'aérodrome de Moba Kirungu à Moba, à 150 km sur le lac Tanganyika, au sud de Kalemi. L'avion est pris dans les boues lors des manœuvres effectuées pour procéder à l'embarquement des passagers. Selon l'administrateur du territoire de Moba qui a livré l'information, des camions de l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés sont engagés actuellement sur les lieux pour tirer l'appareil des boues. C'est donc selon cet administrateur, Serval Moulobé, l'avion provenait de Goma pour Lubumbashi via Moba. Que faire d'urgence pour ce genre d'aéroport ou puis au député national?
Je note d'abord que le...
Parce que pour ne pas vous couper la parole, on se rappelle, on a tous suivi à Goma, avant l'enterrement, lorsqu'on évoquait Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui donnait du moins, insistait sur l'urgence d'arranger la piste de Goma. Il disait qu'il faut aussi penser à la piste de Bukavu. Donc le problème semble être un problème général.
Oui, effectivement, la situation elle est générale. Et lorsque vous signalez le cas de Moba, qui est une piste qui n'est pas gérée par la RVA, à moins que je me trompe. Donc en fait, c'est un problème global qui concerne l'ensemble des pistes et aérodromes, n'est-ce pas, qui sont exploités dans ce pays. Et donc ça pose un problème de sécurité. Et ce problème touche également à ce que mon ami Bouchiri a dit tout à l'heure, c'est un problème économique, c'est-à-dire lorsque nous voulons avoir une politique aéronautique dans ce pays qui permette à ce que nos instruments, nos aéronefs soient compétitifs, comme on l'a dit hier, par rapport à d'autres plateformes aéroportuaires, nous devons avoir des installations qui attirent les autres aéronefs de manière à ce que non seulement des retombées économiques, n'est-ce pas, soient assurées pour notre pays, mais également pour, de façon que, sur le plan de la sécurité, effectivement, les compagnies qui viennent, n'est-ce pas, ne courent pas de risques. Le secteur du transport aérien est un secteur à risque, donc tout le travail à faire doit être fait de sorte qu'on minimise ces risques-là. Et donc, l'urgence dont nous parlons concerne effectivement tous les aéroports. Mais encore une fois, face à la multiplicité des problèmes, il faut établir des priorités. Donc on ne peut pas, j'insiste encore sur le temps, et ça c'est le pragmatisme pur et simple, on ne saura pas comment c'est le travail pour Njili, pour Goma, pour Bukavu,
en même temps. Mais il n'y a pas de priorité au niveau
bon,
des aéroports.
Évidemment, la sécurité, c'est priorité zéro, ça convient avec vous. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on s'attende très bien. Quels sont les modes de financement? Parce que là encore, bon, dans ce pays, il y a des mots qui choquent. Quand on dit, écoutez, bon, ce sont les privés qui vont venir, eh bien, on va privatiser, on va perdre les emplois. Ailleurs, aujourd'hui, vous allez à Entebbe, vous l'avez dit à Kampala. Mais on vous dit tout de suite que ce n'est pas le gouvernement ougandais. Donc, c'est un partenaire privé qui est venu travailler à Kampala. Vous allez à Libreville, vous allez à Djobourg, s'il vous plaît. Donc, ce sont des partenaires privés, des opérateurs économiques qui mettent leur argent qui dans une activité qui est rentable pour eux. Donc,
est-ce que vous proposez ce genre d'idée à l'Assemblée nationale ou bien c'est des bons exemples mais qui ne sont pas suivis?
Je crois qu'il appartient au gouvernement qui a la gestion du secteur de pouvoir imaginer des solutions, que je dirais, innovantes à ce domaine. Hein, et quitte à négocier un contrat qui offre des garanties, tant du point de vue de la sécurisation du personnel, de l'investissement, mais également, n'est-ce pas, du développement du secteur. Parce qu'il ne me semble pas aujourd'hui concevable, par exemple pour développer Njili, que l'État congolais dispose de moyens suffisants pour s'engager dans cet investissement au même moment qu'il doit le faire pour Goma, pour Bukavu, pour Kisangani, pour Lubumbashi.
Donc vous pensez qu'il faut recourir aux partenaires privés?
Absolument, et je crois que cette politique, elle est de mise, elle est levée, le partenariat public-privé, qui fait donc appel à des opérateurs aéroportuaires qui sont outillés, qui sont connus à travers le monde, mais le plus important, encore une fois, c'est de faire appel à ce que moi j'appelle l'intelligence juridique, l'intelligence économique, qui permet de négocier des contrats qu'il faut, les contrats de concession, n'est-ce pas? Et l'opérateur apporte de l'argent, il exploite. Il exploite l'ouvrage et après un certain temps, il vous le rétrocède. Et c'est le contrat qui est démis partout. Partout, et on a des exemples dans ce domaine. Et donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Moi, je vois les compatriotes qui disent « Oh, mais on va perdre l'emploi. » Non. Je crois qu'on a vu ailleurs que des gens qui eux-mêmes cherchent à s'améliorer, à être eux-mêmes compétitifs, en fait. Ils demeurent dans les secteurs. Mais évidemment, les paresseux vont disparaître, excusez-moi. Donc je crois que nous sommes un secteur qui fait appel à une technologie de pointe, et donc des hommes qui eux-mêmes doivent être performants, eh bien, travaillons avec la qualité pour que nous ayons une avion de qualité.
Oui, Camille Boucher.
Oui, parce que lorsque les partenaires arrivent, déjà à partir de nos aéroports, ils savent que nous sommes en guerre, que nous sommes pauvres.
Comment ça?
Oui, déjà avec les trous, les nids de poules dans les aéroports.
C'est inconcevable.
Et nous nous fondons dans des complaintes, nous ne savons pas négocier avec ceux qui ont l'argent pour venir.
Et puis on voit les gens qui traînent sur le tarmac.
Oui, j'en ai vu plein, on descend à l'aéroport, c'est plus. Il n'y a pas l'aéroport. Et voilà la considération autre qu'il avait de nous Congolais, parce que nous sommes vraiment intelligents, nous ne sommes pas dans ces forums-là. Mais déjà, à partir de l'aéroport, l'opinion a carrément changé. Et deuxième élément, notre budget, ce n'est pas 2 milliards d'après ce qu'on nous a dit. Donc le gouvernement décrète qu'il est incompétent pour réaliser, n'est-ce pas, tous les projets à caractère sérieux, les grands projets d'investissement, notamment les aéroports, l'acquisition des avions, 80, 100 millions de dollars, avec 2 milliards, c'est impossible. Alors nous voulons avoir des politiques managers qui savent négocier avec des banquiers, avec des gens sérieux, qui dans ce domaine-là ont de l'expérience, de la compétence et des moyens financiers. Mais le ministre ne peut pas rester ici pour attendre que quelqu'un parmi arrive, pour qu'il puisse n'est-ce pas réparer la route.
Il doit les chercher,
il doit aller à l'internet, surfer, discuter avec les gens. Je crois, et je le dis tout, avec le risque, parce que je regarde vis-à-vis de mon ministre, je crois qu'il ne l'a pas encore fait. Et même si je sais, il ne l'avait pas fait. On n'attend pas des partenaires qui doivent réparer nos aéroports dans les bureaux, sur les boulevards, ici à Kinshasa. Il faut aller poser des problèmes ailleurs. Pas les 2 milliards, c'est impossible de tout faire à la fois, de faire les chantiers. Alors, il faut aller poser des problèmes à qui des droits,
avec les arguments managériels qu'il faut, les arguments économiques, les business plans intéressants, vous les convoquez et vous nous convoquez, nous qui allons utiliser cet aéroport-là. Comme ça, ensemble avec cette synergie, on peut avoir et les partenaires sérieux, et le financement qui convient, et les modalités de remboursement qui conviennent. Bon, le ministre du Portefeuille en a parlé au Parlement. Bon, diatribe, des bons mots, une bonne philosophie. Mais concrètement, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Il ne faut pas convaincre les partenaires et les parlementaires. Il ne faut pas convaincre les Congolais, il faut les convaincre ceux-là qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui les cotisent. Il les a convaincus, on a applaudi, c'est vrai. L'intelligence mise au port de se faire acquise.
Et après,
mais ça fait 6 mois, il n'y a rien. D'ici la fin de l'année, il n'y aura toujours pas de bons aéroports. Alors, dans l'orientation que M. Oupi propose est intéressante, et parce qu'il en parle aussi au Parlement, pour que la philosophie managériale anime, n'est-ce pas, tous les politiques et les ministres et les parlementaires aussi.
Et il est tout près de vous, vous a compris. Oui, commandant Ilunga.
Bon, à un moment donné, moi, je suis même allé plus loin. On m'a répondu en disant que non, ça va coûter trop cher, il ne faut pas démultiplier vraiment les...
Là, vous parlez de quoi?
De aéroports,
voilà.
du moins, disons, du département de transport et communication. Je suis allé après expérience, en voyant ce qui s'est passé un peu ailleurs en Afrique. J'avais proposé un ministère de l'aviation civile. Pourquoi j'avais dit ministère de l'aviation civile? Parce que on avait vu que vraiment... On dirait que quand on a un département de transport et de communication où il y a chemin de fer, il y a bateau, ça faisait trop. Et on semblait vraiment, disons, négliger un peu ou oublier certains problèmes spécifiques qui sont vraiment des très hautes technologies en cette matière-là. Parce qu'en aviation, il faut vraiment pratiquement être au jour le jour. Hein. Il faut suivre ça presque chaque jour. Alors je me suis dit, mais pour que ça puisse être vraiment une chose rentable, comme j'en ai vu au Gabon, ici en face au Congo Brazza, c'était faisable. Vous allez au Sénégal, ils en avaient. Au Togo, ils avaient ça.
Beaucoup de pays, en fait.
Beaucoup de pays africains avaient ce ministère des choses de l'aviation civile. Et ainsi, au niveau du ministère de l'aviation civile, on aurait des éléments, hein, c'est-à-dire des techniciens, capables de réfléchir ensemble, hein, et de présenter des solutions à leur ministère, qui est leur ministère propre, sur le plan. Aéroport. Pistes, hein, les aérogares et même les moyens de navigation, hein, parce qu'en ce moment-là, on avait un problème qui gênait beaucoup de choses. Le pays, c'était le radar. Hein, je me posais la question pourquoi un pays comme le Congo ne peut pas avoir un radar qui permet de réguler ne fût-ce que le trafic aérien.
Donc, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas depuis le temps de Mobutu. Et c'est avec Mobutu qu'on avait commencé à en parler. Alors, on s'était posé la question. Il est réponse qui nous a été donnée. Non, mais si on mettait un radar, vous comprenez, on va commencer à voir ce que le président Mobutu fait à Mongaliema et un jour risque de l'attaquer. J'avais dit, mais non, c'est pas possible. Hein? C'est un outil qui est nécessaire pour justement non seulement réguler le trafic, mais rendre le trafic rentable. Parce que le temps qu'un avion passe en l'air, il passe en fuel, hein, à force de choses de traîner, alors qu'il a un avion à un temps, admettons, pour faire un vol. Ce temps-là lui permet de consommer X quantité de carburant. Le carburant, d'abord, il coûte cher et on en dépense beaucoup. Si on dépasse le temps nécessaire pour faire le vol, on commence à ajouter, admettons, des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires-là, si vous les calculez en choses en consommation et en prix, vous allez voir que les compagnies perdent beaucoup d'argent. C'est ça que nous avons essayé d'expliquer. Alors, si on ne peut pas comprendre ça, autant alors avoir un ministère de l'aviation civile, dans lesquels on aurait des experts qui peuvent réfléchir chaque jour et donner exactement l'importance de ce que nous sommes en train de proposer.
Merci, commandant Ilunga. Je rappelle aux auditeurs que nous parlons de la sécurisation de l'espace aérien congolais. C'est la suite de l'émission que nous avons entamée hier, mais aujourd'hui, nous parlons spécialement des mesures urgentes de la part du gouvernement. Et du côté des auditeurs, il y en a, c'est Gustave de Calémie, Gustave Kakouli Sefou, qui dit, je cite, « La sécurisation de transport aérien fait partie des prérogatives du ministre de transport. Ce dernier doit imaginer des stratégies pouvant lui permettre de convaincre le gouvernement pour cette fin. » Malheureusement, nous n'avons pas le ministre de transport avec nous. Hein. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, le ministre a dit qu'il n'aime pas cette émission. C'est son droit, nous le respectons. Mais nous avons quand même un député national dans cette émission, Oupio. Qu'est-ce que vous pouvez attendre du gouvernement, finalement? Vous êtes là, c'est votre travail, pousser le gouvernement, le contrôler. Mais peut-être on va revenir à vous. Mais d'abord, on commence par les opérateurs. Parce que vous êtes un peu dans le camp des autorités, je dirais, politiques. On commence par les opérateurs. Camille Boucher, s'il y a des mesures urgentes que le gouvernement doit prendre aujourd'hui, face à ce qui est arrivé, hein, le crash de Goma, tout ce qui a été, le ministre a déjà parlé de l'idée de création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale, et on a effleuré aussi la question de la relance, pourquoi pas, de l'AC. Alors, de tout ça, quelles sont les mesures urgentes que vous pouvez attendre du gouvernement pour que finalement l'espace aérien congolais puisse être sécurisé?
Bon, je ne peux pas faire les épieux, parce que c'est lourd de faire des propositions. D'ailleurs, pour relancer l'AC, c'est possible. Il n'y a pas amorce de stratégie pour relancer l'AC. On en a parlé hier, ça peut faire 5 ans, ça peut faire 6 ans, ce sont les moyens. Mais si on n'a pas encore amorcé, c'est ce qu'il lui m'a proposé. Deuxième élément, nous allons parler aujourd'hui des aéroports. Mais s'il n'y a pas amorce en termes de recherche de partenaires requis pour que les aéroports, n'est-ce pas, soient modernes, plus pour que les avions puissent évoluer avec les conditions de sûreté et de sécurité requises. Voilà le problème. S'il n'y a pas de formation de personnel requis pour que, au niveau de la DAC, au niveau du secrétariat général des transports, les gens qui sont habilités à décréter que tel avion ne peut pas voler, que tel pilote n'a pas réalisé le nombre d'heures requis ou n'a pas la formation requise, n'a pas la licence pour voler dans tel type d'avion. Si cette formation individuelle, au niveau de ceux-là qui doivent encadrer les avions, n'est pas encore à niveau, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette évolution?
Mais est-ce que la formation du personnel, c'est une mesure qu'il faut décréter d'urgence dans la situation actuelle?
Parce que pour charger un avion, il faut avoir une formation. Il y a le centre de gravité. On ne peut pas charger un avion n'importe comment. La plupart des compagnies privées n'ont pas des gens formés pour charger un avion. C'est pour ça que vous voyez l'avion qui vole vers l'arrière. Le poids est tellement énorme qu'au décollage, déjà, vous sentez que l'avion est tiré vers l'arrière. Et quelques temps après, l'avion crache. La réhabilitation de la compagnie nationale, comme on en a parlé, mais pour les aéroports, on peut en parler aujourd'hui, c'est une mesure urgente qui est associée avec les cadres compétents de la RVA pour savoir quels sont les aéroports qu'il faut commencer à réhabiliter rapidement avec les partenaires. Il y a des projets qui avaient été déjà déposés, il y a des études qui ont été faites. Il est question maintenant de mettre cela en musique, d'activer cela rapidement. Mais si on n'active rien pour le moment, il serait devenu pire. Donc, réduction de l'aéroport, doter l'acte des avions qu'il faut pour remplacer les Antonov et faire en sorte que l'espace congolais soit desservi par les avions qu'il faut et par des personnels qualifiés avec des aéroports, n'est-ce pas, qui conviennent.
Oui, donc, voilà les mesures, selon vous, oui. Commandant Ilunga.
Pour moi, il faut réhabiliter les aéroports d'abord à flux important, tel que Kinshasa. Il n'y a rien à faire, tout de suite.
Il faut faire concrètement à Angili, par exemple, à Kinshasa.
Il faut travailler la piste. Nous avons des ingénieurs. Il faut demander à l'RVA comment faut-il arranger cette piste de Kinshasa. Celle de Lubumbashi, c'est la même chose. Celle de Mbujimayi, c'est la même chose. Ce sont des aéroports à un flux assez important. Goma également. Goma, nous venons d'en parler, elle est là. Bon, il faut absolument s'y mettre. Ils peuvent prendre des mesures. C'est pas ici, de toute façon, dans les studios que nous allons leur dire comment il faut faire. Non. Ils ont des experts, ils ont des ingénieurs. Ils peuvent se mettre autour d'une table. Même le ministre peut décréter, admettons, un travail entre experts. D'abord, c'est un travail de l'RBA parce qu'on leur a donné ça. C'est à eux de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire sur cette piste-là. On a évoqué ici les choses, les nids de poules, il y a de l'eau un peu partout. Il faut savoir enlever ça. Il y a des pistes qui ne sont pas achevées. À l'entrée, comment, à la sortie de...
Quelle piste, par exemple?
Kinshasa, par exemple, il y a une partie qui est coupée. Ça, vous savez. Il y a une partie qui est coupée. Mais jusque-là, ce n'est pas terminé. Pourquoi ce n'est pas terminé? Il y a un problème budgétaire. Il y a toujours des raisons pour lesquelles. Mais ces raisons-là, doivent être élucidées. Il faut que ça soit suivi. Est-ce que le ministre sait? Et en combien de temps on va terminer ça? Si on sait qu'il y a une piste qui est dégradée. Bon, cette piste-là, on a commencé les travaux quand et ça va se terminer quand? Pas commencer une piste et l'abandonner un mois après. Pour 3 ans après, quand il y a un accident, on dit, mais écoutez, effectivement, cette piste, il fallait la travailler. Comme Goma. Goma, ça fait depuis 1998 que cette piste de Goma est là. Mais depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, qu'est-ce qu'on a pu faire? Kisangani, n'en parlons pas. J'ai eu un rapport de Kisangani, c'était encore la Mada. Il n'y a pas de câbles pour le balisage. La piste elle-même, elle est détruite, elle a des trous un peu partout.
Et ça, c'est jusqu'au moment où nous partons.
Jusqu'au moment où nous partons, Kisangani, si vous faites les visites d'ailleurs, suffisamment. D'aller même vous-même en tant que journaliste, au lieu de venir en parler dans les studios, faites des tours dans toutes ces pistes-là.
Nous le ferons.
Et en ce moment, vous aurez une idée. Tandis qu'ici, bon, nous parlons de ce que nous connaissons. Hein, Oupio a vu, Camille a vu, moi j'ai vu. Mais nous ne sommes pratiquement rien. Hein. Nous avons en parlé, nous avons bon nous plaindre, mais ce n'est pas ça. Ce sont les experts qui, avec leurs inspecteurs, qui doivent aller chaque jour pour dire, nous avons vu ça, on va commencer les travaux, admettons, à telle date. Et c'est pour savoir c'est terminé pour tel. C'est ça que nous voulons. Mais pas venir chaque fois qu'il y a des catastrophes et commencer à se plaindre, non. Il y a eu un accident en Mandaga. Hein? Bon, depuis que cet accident en Mandaga est arrivé, il y a eu des ampoules, c'est comment ils sont partis, parce que l'avion a dû faucher les ampoules. Les a-t-on remplacés? Des choses comme ça, tout de suite on doit réagir. Hein? Et qui doit remplacer? Faut-il même faire payer la compagnie hein, qui vient de faucher une chose d'une ampoule, pas seulement l'ARV qui doit sortir l'argent, non. Toute compagnie, admettons, qui commet une erreur sur une piste, on l'a fait payer. Chez nous, ici, bon, on dit c'est l'RVA qui va. Non.
Voilà. Alors, Oupio, le dossier pour la sécurisation de l'espace aérien, apparemment, à suivre Camille Bouchiré et le commandant Ilunga Ildefonso, apparemment, le dossier est connu. Hein, bon, quand on voit le temps que vous prenez au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, juste pour la commission sur le crash de Kinshasa, et même le dossier sur la relance des lignes aériennes congolaises, parce qu'il y a une commission aussi parlementaire là-dessus, avec tous ces problèmes finalement, est-ce que les Congolais doivent faire confiance aux députés que vous êtes?
Bien entendu, je crois que nous avons aujourd'hui raison de croire que c'est pas pour rien que les Congolais nous ont élus.
Mais donc, ils vous ont élu pour faire quoi, finalement?
Mais pour travailler, nous sommes en train de travailler, donc il faut bien voir l'agenda parlementaire. Et je crois qu'il y a les commissions ad hoc font partie de notre travail, et donc en tenant compte du calendrier de nos travaux, on fait le maximum qu'on peut faire. Et donc,
en quoi du fruit, ce que vous faites?
Oui, s'agissant des questions sensibles, comme l'enquête relative à l'accident de Kinshasa, où l'avant d'hier, la commission relative à la relance des lignes aériennes congolaises, encore que c'est le Parlement qui a décidé de mettre en place la commission, donc c'est une raison suffisante pour laisser à l'Assemblée nationale le soin de mettre en place ses propres stratégies, parce qu'elle seule sait le terrain et les aboutissants de sa décision. Donc je crois que gardons notre patience. Très bientôt, la commission va rendre publique.
Mais vous risquez d'avoir trois commissions, parce qu'il y a Kinshasa, il y a aussi la relance de l'AC, il y a la commission sûrement sur le crash de Goma. Est-ce que ça va faire une pile de résultats que vous devez produire?
Eh bien, je crois que le travail parlementaire n'exclut pas que le gouvernement fasse le sien. Et donc, sur ce terrain précis, nous sommes attentifs, n'est-ce pas, au programme du gouvernement et à ce que je sache. Il y a la rénovation de certains aéroports qui figurent par exemple dans le contrat chinois. Ça c'est déjà, donc il y a là un début d'exécution. Je sais par exemple que la restructuration de la RVA participe justement de politique, n'est-ce pas, d'amélioration des compétences et des capacités pour pouvoir bien gérer la sécurité aérienne dans ce pays. Et donc, nous, en tant que Parlement, dans notre mission de contrôler l'action gouvernementale, nous allons veiller et nous veillons justement chaque jour à ce que ce programme d'action gouvernementale soit mis en œuvre et que cela soit fait, n'est-ce pas, dans le délai. Mais
le résultat sur terrain, est-ce qu'il vous inspire pas autre chose, autre stratégie peut-être au niveau des efforts que vous prétendez faire?
Eh bien, si je parlais peut-être en tant que député, en tant que citoyen, en tant que peut-être technicien du secteur. Moi, je dirais qu'il y a des actions à très court terme qu'il faut envisager. Ça, c'est évident, le commandant Ilunga l'a dit. Nous sommes en Djili, il faut absolument utiliser les ressources disponibles, n'est-ce pas, en tenant compte des compétences qui existent à l'intérieur de la RVA.
Pour faire quoi, concrètement, dans l'urgence?
N'est-ce pas, à intervenir sur la piste. Et ça, je crois que ça se fait tous les jours pour éviter des dégradations qui seraient dommageables pour la sécurité. Mais il est évident qu'à moyen et long terme, il nous faut une piste et un aéroport qui est conforme aux standards internationaux, ça c'est clair. Il n'y a pas que la petite piste, il y a deux pistes, il y a le parking, il y a pas mal de, n'est-ce pas, de infrastructures qu'il faut arriver. Il faut un aérogare qui soit conforme aux normes de sûreté de l'aviation. Donc, c'est là, encore une fois, je m'excuse, demande à ce que le dossier soit étudié, que le financement soit mis en place, et que donc ça vous prendrait peut-être 3, 4, 5 ans pour réaliser un ouvrage, pour être bien fait. Mais en attendant, il faut intervenir. Mais, bien entendu, il faut que les compagnies aériennes, donc les exploitants, se conforment aux règles établies par la RVA. Parce que lorsque une piste présente, n'est-ce pas, des restrictions d'exploitation, la compagnie aérienne est tenue de suivre l'alimentation. Le commandant l'a bien dit, lorsque Goma a vu sa dimension réduite, bien entendu, il y a un type d'avion qui ne peut pas y aller. Et à ce moment-là, la réglementation doit être respectée par tout le monde. Donc, il y a des règles qui existent en tenant compte de l'état de la piste, qu'elle soit mauvaise, qu'elle s'améliore. À chaque instant, il y a des règles qui sont diffusées et que donc les exploitants doivent absolument respecter. Mais il est évident qu'on doit, à très court terme, pouvoir intervenir. Et donc, si la RVA, parce que c'est elle qui gère la plupart des aéroports, n'a pas les moyens, bien entendu, le gouvernement devrait intervenir. Et là, le Parlement va y veiller. Et si le gouvernement, bien entendu, comme nous l'avons dit, n'a pas les ressources pour entamer des grands travaux, il faut
retrouver une autre solution. Je n'ai pas nécessairement l'aspect politique de cette intervention. Sur le plan technique, il n'y a pas de problème par ici. Parce qu'il dira, parce qu'il a dit, que l'Assemblée seule sait. Non. Pour les problèmes techniques, les problèmes liés à la réhabilitation de la RDA, ça va bien tenir à ce que maman, Bunda, la ministre de Portefeuille, disent quoi faire dans l'immédiat et à long terme. À long terme, il n'y a rien. Hein? Et ça ne veut plus. Parce qu'à long terme, il faut qu'il y ait un programme avec les partenaires requis et un programme valorisé. Dit que non, il faut 10 ans, ça nous coûtera 10 millions de dollars, et voilà comment nous commençons à amorcer. À long terme, je vous dis, il n'y a rien. Nous sommes contentés du programme à très court terme. Le Parlement l'a dit, on va réhabiliter l'acte dans l'immédiat. Ça, c'est quand même ce qu'il a dit. De toute urgence, l'immédiat de l'immédiat. Mais ça fait 6 mois. Si l'immédiat, c'est 1 an, on attend. Là, c'est un programme.
Bon, on peut dire qu'il faut prendre le temps.
Bon, non, là, je dis non, c'est pas seulement l'Assemblée qui doit savoir. C'est nous qui devons savoir. On a nommé un comité de gestion à l'AIRE, par exemple, en réservant les postes d'ADG, d'ADT, aux partenaires privés. Vous n'avez fait, le président de la République a signé. Nous sommes dit qu'il y a des orientations pour les partenaires qui viendraient relancer la RDA. 6 mois après, ces postes-là ont commencé à être complétés. Il y a maintenant un ADT, sûrement il y aura un ADG congolais. Donc bref, on n'a pas trouvé les partenaires. La RDA, aucune piste de solution. À brève échéance, ils sont en train d'avoir les arrières salaires, comme il y a 6 mois. Alors, donc bref, les long termes, c'est des inscrits, il n'y en a pas. Il y a juste des documents au portefeuille, des vœux pieux. Hein. Il n'y a rien, aucun programme. Mais à brève échéance, il n'y a rien, ni pour la RDA, ni pour l'ACRE. Qui pour le moment sont en train de tourner en rond, il n'y a pas d'argent, même si c'est juste des millions pour l'acte, on ne trouve pas avec une efficience. Donc bref, je crois qu'en politique, c'est là où nous sommes un peu trop déçus, nous, exploitants. Les aéroports sont toujours troués, il n'y a pas de problème, les classes vont continuer. Et des SNF, s'il y avait des gens très sérieux, ils ne pouvaient pas décoller à cette piste-là, comme le commandant l'a dit.
Il n'y a pas encore
les temps de décision. Si la piste est à 2000 mètres, déjà à 300 mètres, si un avion commence à avoir des petits pépins, et ils n'avaient pas encore atteint la distance de décision, ils pouvaient déjà bloquer les freins. Donc, même les freins n'ont pas répondu à 300 mètres, vous vous rendez compte. Donc, et l'avion, et la piste n'était pas juste.
Donc, en résumé, vous attendez beaucoup du gouvernement.
On attaque très peu. À bord de séance, il y a très peu de choses, très peu de moyens pour habiter là. Même le très peu, on n'en a pas. On ne peut pas attendre beaucoup d'un pays qui a 2 milliards. On ne peut pas attendre des pays avec les gouvernements, avec les associations actuelles.
Voilà.
Mais le minimum à faire pour la RVA au lac, oui, il n'y a rien jusqu'à présent. C'est là qui est sidérant pour les exploitants aussi.
Voilà, donc on attend beaucoup. Hein, vous avez suivi les opérateurs de la navigation au Congo, attendent beaucoup. Voilà, il y a des réactions qui nous arrivent, notamment Richard Ngandou de Kananga. Il nous écrit depuis donc, le Kassai occidental sa question. Pourquoi ne pas mettre en exécution le projet préparé par l'ancien ministre Moba Sakani au lieu de se mettre encore à faire des études qui prendront du temps alors qu'un projet précis existe déjà? Vous avez, commandant, vous avez une idée sur le projet de Moba Sakani ou l'un d'entre vous a une idée sur le projet d'Henri Moba Sakani? Camille, vous
savez? Oui, pour là qu'à l'époque, oui, il avait dit, par exemple pour la dette sociale, qu'il fallait faire un pacte social avec les agents. Et certains qui accepteraient d'être actionnaires, et d'autres qui accepteraient qu'on réduise, n'est-ce pas, ce qu'on leur doit, pour que cette dette-là, qui s'élève à 40-50 millions de dollars, ne pèse pas tout le qu'on négocie avec les partenaires. Deuxième élément, il nous a donné 120 millions de dollars pour qu'on puisse réhabiliter des C8 avec un projet de remettre la foule à la trésorerie. Malheureusement, le tout premier vol, l'avion a été bloqué à Goma et jusqu'à présent on n'a pas récupéré. Donc il y avait tout un tableau, des choses à concrétiser à brève échéance. Et nous avons commencé à le faire. Dès que les sécurités avaient volé, nous avons eu deux ATR 42 qui venaient des Éthiopie, qui étaient sur le tarmac. Les ATR sont des avions de 42 places qui peuvent voler ici à Mwanda, à Tshikapa, et ça peut remplacer efficacement, n'est-ce pas, les Antonov. Donc ce programme-là, moi je crois, pour le moment, s'il n'est pas été très bon, mais il n'y a pas mieux que ça, on peut déjà commencer à mettre cela en musique pour que rapidement on puisse avoir les petites choses, les avions qu'il faut et remplir un peu la trésorerie pour un temps.
Voilà, on va essayer d'évoluer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. D'abord, cette question qui nous vient de Bounia, de Sengi Durunga, sa question, quels sont les critères exigés pour qu'un aéroport de la RDC soit dit national ou international? Commandant, vous avez peut-être une réponse là-dessus?
Pour
qu'un aéroport soit qualifié de national ou international, quels sont les critères? Vous avez une idée?
Les critères sont bien répertoriés dans les manuels de l'OACI. Pour voir d'abord si cet aéroport-là est situé où, dans quelle ville, hein, et l'afflux de passagers qu'on peut transporter par an, le tonnage même. Ce sont tous ces éléments qui peuvent faire qu'un aéroport deviendrait international parce qu'il les rapporte. D'abord, on mettra beaucoup de moyens là-dessus et il va rapporter le moyen. Tandis que sur un avion, disons un aéroport domestique, qui peut aussi devenir un jour un aéroport international, parce que ce que j'ai dit, c'est d'abord c'est que les sept aéroports-là apportent, c'est cet aéroport-là qui fera en sorte que l'aéroport pourrait être dit international, de par son apport seulement.
Voilà, de par son apport. On va peut-être terminer, parce qu'on ne s'est pas donné, vous lire toutes les réactions qui nous viennent des auditeurs. Il y a Jean-Charles Kirucha de Goma dans le Nord qui vous. Faut-il continuer avec des débats sur le crash intempestif, sur les ondes de radio, sans devoir rappeler à l'autorité judiciaire d'établir les responsabilités et sanctionner le coupable? Quel serait alors le sens des débats? Voilà,
Oui, je crois que l'auditeur a raison. En fait, lorsqu'il y a un accident, il faut qu'il y ait une enquête technique. Et donc, ça ne sert à rien qu'il débat la radio, débat politique. Parce qu'en fait, pourquoi une enquête d'accident d'aviation? C'est pour, effectivement, dégager les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu, en vue de prévenir les cas futurs, éventuellement. Et surtout de faire des recommandations de sécurité.
Donc, si les enquêtes en RDC, la plupart.
Les enquêtes peuvent prendre plusieurs années. Et c'est toujours important parce que les causes, ce n'est pas ce que nous disons ici. C'est pas que voilà l'avion le frein. Non. Il appartient aux techniciens de pouvoir déterminer les causes et éventuellement de décrypter après décryptage de boîtes noires. Et donc, cela peut prendre du temps. Et donc, il faut pas. L'essentiel, ce sont les leçons qu'on va tirer de cette enquête pour prévenir les cas qui viennent.
Merci beaucoup. Oui, juste un mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Juste un mot.
Destiné à nos auditeurs que l'Europe et les Amériques ont ouvert le ciel. Parce que, réciproquement, ils ont confiance aux avions qui vont desservir tous ces aéroports. Ils ont confiance aussi aux avions qui vont desservir, n'est-ce pas, l'ensemble des aéroports de ces deux zones. Alors, si nous n'avons pas de bons aéroports, si nous n'avons pas une compagnie qui a des avions de type moderne et qui sont bien maintenus, nous ne pouvons pas aller ailleurs.
Merci,
Camille. Donc, pour que nous puissions être consommés ailleurs et être acceptés ailleurs, il faut des bons aéroports.
Oui, un mot, commandant, vous voulez parler aussi, mais juste un mot.
Non, je partage l'idée de choses de Camille, qui est vraiment très bonne, c'est ce qu'il faut. Il faut seulement savoir respecter les normes internationales.
Merci beaucoup, commandant. Merci donc à vous tous. Merci à tous nos auditeurs. C'est ainsi que nous mettons fin à cette émission. Willem Lungamba était à la technique. Kevin Kouté à la réalisation. Claude Kianza, Guy Roger Niampala et Jean-Claude Toumba Kabanga. Nous vous disons merci de rester fidèles à Radio Okapi.